Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient Wallis Glaise. C'est une affirmation grave. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, accuse Emmanuel Macron de se ranger du côté, je cite, d'une organisation terroriste. Des propos au lendemain d'un entretien télévisé sur TF1 au cours duquel le président français a dit que ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou à Gaza est inacceptable et une honte. Le président américain a demandé au président syrien par intérim Ahmed al-Shara de rejoindre les accords d'Abraham, c'est-à-dire de normaliser la relation avec Israël et d'expulser, je cite, les terroristes palestiniens. La compagnie aérienne Qatar Airways a passé une commande de 160 avions pour une valeur de 200 milliards de dollars à Boeing. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président américain Donald Trump en visite au Qatar, seconde étape de sa tournée dans le Golfe. C'est la plus importante commande d'avions dans l'histoire de Boeing, a assuré Donald Trump. La défense civile palestinienne fait état de 80 morts dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Ce nombre inclut 59 personnes tuées dans des bombardements dans le nord du territoire palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà annoncé une intensification de l'offensive dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée, où une crise humanitaire sévère. Justement, une crise humanitaire qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Dans le reste de l'actualité internationale, l'armée israélienne a intercepté un missile tiré depuis le Yémen, revendiqué peu après par les rebelles Houthis. Des sirènes d'alarme suivies d'explosions ont retenti dans la région de Jérusalem, selon des journalistes de l'AFP. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé un membre du Hezbollah dans le sud du Liban, également où les autorités ont fait état d'un mort dans une frappe de drone sur une voiture. Paris convoque le chargé d'affaires algérien ce matin pour dénoncer la décision d'Alger d'expulser plusieurs fonctionnaires français qualifiés justement d'injustifiés et injustifiables par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Notre réponse est immédiate, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères sur la chaîne BFM TV. La France a décidé en réaction de renvoyer à leur tour des diplomates algérien. Vous êtes bien sur Radio Orient. Place à notre magazine d'information. Au sommaire, dans votre magazine, nouvel acte dans les tensions entre la France et l'Algérie. Gaza, Macron qualifie de honte ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et puis également les affrontements entre groupes armés à Tripoli en Libye. Les précisions sur le sujet avec Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris. Je vous le disais, c'est le premier dossier de votre magazine de l'information. Les tensions entre la France et l'Algérie. Jean-Noël Barrot a annoncé l'expulsion de nouveaux diplomates algériens.
Actu France. Paris a convoqué le chargé d'affaires algérien ce matin pour dénoncer la décision d'Alger d'expulser plusieurs fonctionnaires français qualifiés d'injustifiés et injustifiables par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Notre réponse est immédiate, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères sur la chaîne BFM TV. La France a décidé en réaction de renvoyer à leur tour des diplomates algériens.
Et ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie a décidé de manière incompréhensible et brutale d'expulser 12 de nos agents présents à Alger. Ce à quoi nous avons répondu avec beaucoup de fermeté, dans la stricte réciprocité, en expulsant à notre tour 12 agents algériens présents en France. Et puis nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation.
C'était le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
D'autres dossiers à présent. Comment Emmanuel Macron prévoit la situation dans la bande de Gaza?
À la une. Emmanuel Macron a dénoncé ce mardi lors d'une interview sur TF1 la situation dans la bande de Gaza. Ce qui est fait, c'est une honte, a dit le président de la République. Le chef de l'État qui a une nouvelle fois critiqué le blocus de l'aide humanitaire par Israël, Emmanuel Macron.
À Al-Arish, en Égypte,
il y a peu,
avec le président Sissi. J'ai vu un des femmes, des enfants blessés, une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, acheminent, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. Et donc la position de la France, elle est constante. Et je vais ici en donner la cohérence. Le 7 octobre, il y a eu une attaque terroriste de la pire ampleur contre le peuple israélien lancé par le Hamas. Et donc nous l'avons condamné avec force, qui a été pour la France l'attaque terroriste qui a tué le plus de nos enfants depuis Nice. Nous avons reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais comme une démocratie. Notre combat depuis le 7 octobre 2023, c'est libérer tous les otages. Et je pense à toutes les familles, en particulier celles qui malheureusement n'ont pas vu leurs enfants encore revenir ou ont vu leurs enfants revenir morts. Et de démilitariser le Hamas. Mais dès le mois d'octobre, la France dit la solution n'est pas d'attaquer Gaza de manière indifférenciée. Dès le mois d'octobre, j'appelle à un cessez-le-feu. Dès novembre 2023, nous organisons la première conférence humanitaire pour Gaza à Paris, le 11 novembre 2023. Et nous nous sommes battus sans relâche pour arrêter ce conflit.
C'était Emmanuel Macron sur la situation dans la bande de Gaza.
Et les artistes prennent aussi position vis-à-vis des Palestiniens.
Dans l'actualité. En ouvrant le 78e Festival de Cannes, dont elle préside le jury, Juliette Binoche a rendu hommage mardi à la photoreporter palestinienne Fatima Hassouna, tuée à Gaza le mois dernier par un bombardement israélien. La photoreporter est l'héroïne du documentaire « Put your soul on your hand and walk » programmé à Cannes. Je vous propose d'écouter Juliette Binoche.
Le 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatima Hassouna et 10 de ses proches ont été tués par un missile qui a frappé leur maison. Elle avait écrit « Ma mort m'a traversée, la balle du tireur m'a traversée et je suis devenue un ange. Aux yeux d'une ville immense, plus vaste que mes rêves, plus vaste que cette ville. » Je suis devenue une poète sainte aux yeux d'une forêt, me faisant ermite et prenant un cyprès pour offrande. La veille de sa mort, elle avait appris que le film dans lequel elle figurait était sélectionné ici à Cannes, au Festival de Cannes. Fatma aurait dû être parmi nous ce soir. L'art reste. Il est le témoignage puissant de nos vies, de nos rêves. Et nous, spectateurs, nous l'embrassons. Que le Festival de Cannes, où tout peut basculer, y contribue.
C'était Juliette Binoche dans l'actualité.
Libye à présent, reprise des violents combats entre groupes armés rivaux dans la capitale Tripoli.
Interview.
C'est un pays qui reste déchiré entre clans rivaux. Des affrontements entre groupes armés à Tripoli ces derniers jours. Ils ont fait au moins 6 morts dans la nuit de lundi à mardi. Des affrontements à l'arme lourde après que Abdel Ghani El Kikli, chef de l'autorité de soutien à la stabilité, aurait été tué dans une embuscade. Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de Géopolitique de la Libye aux éditions Bibliomonde, nous dit quelle était l'influence de cet homme.
C'était un homme visiblement aujourd'hui assez influent, puisqu'il avait réussi à faire nommer à des postes importants de l'administration de la Tripolitaine dans le gouvernement de M. Dbeiba, des proches, et visiblement, il devenait ou gênant ou embarrassant. En tout cas, son influence grandissante a fait... a inquiété suffisamment de personnes rivales, de ses rivaux, pour que son assassinat soit commandité. Et puis, il avait aussi l'ambition d'étendre son influence au-delà de Tripoli. Et on le voit d'ailleurs, l'une des premières décisions du ministère de l'Intérieur a été de dérouter les avions de ligne du tarmac de Tripoli, la capitale libyenne, vers la grande ville de Misrata, la grande ville commerçante, puissante et influente elle aussi, parce que c'est visiblement là que Kikli voulait envisager en tout cas de prendre un envol politique. Alors peut-être était-il perçu comme un rival pour l'actuel Premier ministre, peut-être était-il aussi perçu comme un rival par d'autres chefs de clan, de milices ou de tribus. Bon, donc l'enquête peut-être le déterminera, si tant est qu'il y ait enquête. Et deuxièmement, on est aussi là fort en peine de comprendre à quoi servent les Nations Unies, puisqu'ils sont sur place, qu'ils sont présents, mais qu'ils ne parviennent toujours pas à donner ou à redonner ou à permettre à la Libye de retrouver une certaine stabilité, puisque cette instabilité aujourd'hui en Libye est chronique depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011.
Et comment la population vit cette situation? Quel est l'impact, notamment social, pour la population libyenne?
Je parlais avec un ami hier soir qui est à Tripoli et qui est universitaire et qui me disait que la question, évidemment, c'est celle de la sécurité, hein, c'est quand même fondamental, sortir et savoir qu'on pourra rentrer chez soi sain et sauf. Et deuxièmement, le pays est mis en coupe réglée, c'est-à-dire que il y a peu de choses qui fonctionnent, et ce qui fonctionne l'est ou continue à l'être uniquement parce que cela représente un intérêt économique, financier, clanique, politique, immédiat pour ceux qui détiennent les armes. Donc tant qu'on n'aura pas réussi à désarmer les tribus, les clans, les milices, on parviendra à rien parce qu'on ne pourra pas enclencher un véritable processus politique pour aboutir ou pour aller vers des élections. Et tout est aujourd'hui conditionné à ce postulat.
C'était Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de Géopolitique de la Libye aux éditions Biblio Monde.
Et place au sport à présent avec Arthur Claude Savoie.
Radio Orient Sport.
Finale de Coupe d'Italie ce soir. L'AC Milan et Bologne s'affronteront au Stadio Olimpico de Rome. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Les équipes se sont déjà rencontrées il y a quelques jours lors de la dernière journée de championnat. C'était les Milanais qui s'étaient imposés 3-1. Mais ce soir, tout peut changer et tout peut arriver en 90 minutes. Ce soir, il y a aussi une rencontre de barrage entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Dunkerque, 4e de la Ligue 2, accueillera Guingamp, 5e à 20h45. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Metz dans un match simple. Cette rencontre risque d'être accrochée. Pour rappel, les deux équipes étaient seulement à un point d'écart au classement. Nous sommes actuellement en plein championnat du monde de hockey. Les meilleures nations s'affrontent pendant 2 semaines. La France y participe et est même dans la plus haute division. L'occasion de revenir sur ces championnats avec Charles Trognon, commentateur de hockey sur Sport en France et Canal+.
Le hockey sur glace, c'est un sport incroyable avec énormément de vitesse. Les championnats du monde cette année, ils ont lieu en Suède. C'est constitué en deux poules. L'objectif pour l'équipe de France, c'est de se maintenir, hein, parce que c'est comment dire, il y a plusieurs divisions dans les championnats du monde. Là, c'est vraiment la division élite, quoi. Et dans notre poule, il faut absolument ne pas terminer à la dernière place.
Mais alors, quels sont les pays traditionnellement dominants dans cette compétition?
Alors, les pays qui dominent sont les pays du Nord, hein, généralement, la Suède, la Finlande, évidemment le Canada, c'est là-bas que le hockey sur glace est né, c'est vraiment la meilleure équipe du monde. Mais aussi, on pourrait parler de pays comme la Suisse, la Russie, en fait un petit peu les pays où finalement il y a des montagnes et où il peut faire froid. Et c'est quand même du très très haut niveau avec les meilleurs joueurs européens et quand même pas mal de joueurs NHL.
Parlons un petit peu de l'équipe de France dans ce championnat. A-t-elle progressé depuis ces dernières années?
Quand on regarde les deux premiers matchs de l'équipe de France, c'est vrai qu'on se dit que malgré l'absence de joueurs NHL, hein, parce qu'on en a un dans le groupe mais qui a été blessé pour les deux premiers matchs, on se dit qu'il y a du progrès. On arrive à accrocher les plus grandes grandes nations. Lors du dernier match, on jouait contre la Finlande, on les a emmenés jusqu'aux prolongations, alors que la Finlande, c'est une équipe qui est championne olympique. Donc oui, il y a du progrès, il y a du progrès en France dans le championnat, ça se reflète aussi pour l'équipe nationale, hein, l'équipe de France, là, qui, on peut le dire, oui, progresse.
Merci Charles Trognon, commentateur de hockey sur Sport en France et Canal+. Maintenant du tennis, l'exploit n'a pas eu lieu hier pour Arthur Fils. Le Français s'est incliné 2-7-0 face à Alexander Zverev Impérial. L'Allemand affrontera l'Italien Musetti ce soir à 20h30 pour les quarts de finale. Passons à du cyclisme, c'est maintenant officiel, mais le Tour de France passera bien par Montmartre. Après les Jeux l'été dernier, la Grande Boucle va aussi emprunter la butte de Montmartre le 27 juillet lors de la dernière étape du Tour de France. On connaît le groupe de l'équipe de France pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027 de basket. Les Bleus retrouveront la Finlande et les voisins belges, mais aussi les deuxièmes du groupe B des pré-qualifiés. Les qualifications débuteront en novembre 2025 et s'achèveront en juillet 2026. Place à l'habituelle anecdote du jour, en NBA, les Chicago Bulls sont passés à un pile ou face d'obtenir le premier choix de la draft 2025. En effet, à la fin de la saison 2024, Dallas et Chicago possédaient le même bilan au terme de la saison régulière de 39 victoires pour 43 défaites. Le problème est qu'il faut départager quelle équipe était la plus basse que l'autre. Aucune équipe peut être égalité, donc un pile ou face a été fait. Les Mavs l'ont remporté, abordant ainsi la loterie avec le 11e spot et les Bulls avec le 12e spot, mais coup du destin avec 1,8% de chance. C'est Dallas qui a grillé la priorité sur plusieurs équipes et qui a décroché le first pick à la loterie avant-hier soir. Voilà comment un pile ou face anecdotique s'est finalement transformé en regret pour les fans des Bulls. Merci d'avoir écouté votre émission sport, c'était Arthur Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.